VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, heureux de vous retrouver en ce lundi 15 janvier 2018 pour une demi-heure d'infos et de décryptage de l'actualité. Jacques Aristide avec vous en direct de Washington. À la une ce soir, Côte d'Ivoire, ouverture du procès de l'ancien ministre de la Défense de Gbagbo. En RD Congo, des parlementaires demandent l'annulation de la loi électorale.
Ce n'est pas un problème d'intérêt catégoriel, c'est d'abord un problème de respect d'une constitution, comme il vous l'a dit, adoptée à 85% par les Congolais.
Également dans l'actualité, des ONG comptent faire appel du non-lieu pour les militaires français accusés de viol d'enfants en République centrafricaine. Plus de 30 morts dans un double attentat suicide à Bagdad. Et le président américain se défend d'être raciste sur fond de célébration de Martin Luther King.
Le contexte manifeste bien que le raisonnement des conservateurs disant qu'il n'était plus nécessaire de célébrer le combat de Martin Luther King n'a pas lieu d'être. Le raisonnement est totalement invalidé, précisément par les circonstances actuelles.
Et puis à venir dans la Minute Éco, la découverte d'un diamant exceptionnel au Lesotho. Et en sport, tous les détails tout à l'heure sur le championnat d'Afrique des Nations. Je vous le disais en titre, le procès de Lida Kouassi, ancien ministre de la Défense de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, accusé de complot contre l'autorité de l'État, s'est ouvert ce lundi devant la cour d'assises d'Abidjan. D'après l'acte d'accusation, dans le courant du mois de février 2012, la direction de la surveillance du territoire recevait une information faisant état de la préparation d'un projet de déstabilisation du régime actuel, soit du président Alassane Ouattara, par des officiers de l'armée en exil au Ghana, constitués en une plateforme militaire avec l'implication de certains civils et hommes politiques proches de l'ex-président de la République. Lida Kouassi, détenue depuis octobre 2014, comparaît en même temps que trois autres militaires, le colonel Paulin Kate Niatoa, le sergent Serge Pacom Durand-Brou et Samuel Zadi Baga, un élève officier de la marine, tous accusés de complot contre l'autorité de l'État. Les trois ont été arrêtés à Abidjan le 8 mars 2012, jour prévu pour la réalisation de leur projet. L'audience doit se poursuivre demain avec l'audition des autres accusés. Trois militaires congolais ont été tués ce lundi dans une attaque attribuée aux rebelles ougandais musulmans des ADF dans l'est de la République démocratique du Congo après plus de 2 heures de violents combats. Toujours dans l'est de la RD Congo, des habitants s'en sont pris aujourd'hui à des symboles de l'État dans la province du Sud Kivu. Ils protestaient contre l'insécurité après l'assassinat d'un cambiste. Un dernier mot sur la RD Congo. Des parlementaires ont déposé aujourd'hui une requête demandant à la Cour constitutionnelle l'annulation de certaines dispositions de la nouvelle loi électorale promulguée en décembre par le président Joseph Kabila. Première étape du calendrier qui doit aboutir à des élections le 23 décembre. Réaction du député Christophe Lutundula, l'un des responsables de la coalition d'opposition Rassemblement.
Nous respectons les institutions de la République et il appartient à ceux qui ont en charge la gestion de ces institutions de se montrer à la hauteur de ce que sont ces institutions et des attentes de la population. Donc aujourd'hui, nous avons fait le devoir qui est le nôtre. Nous espérons que les magistrats de la Cour vont assumer leurs responsabilités. Je crois que c'est très clair et donc nous attendons que le droit soit dit en toute indépendance et nous sommes sûrs que s'il est dit en toute indépendance, l'affaire de l'article 101 avec les seuils aura une décision juste, équitable. Et enfin, ce n'est pas un problème seulement des indépendants, c'est un problème de principe. Les sénateurs et les députés, nous sommes législateurs. Nous ne pouvons pas transiger sur le respect de la Constitution et des lois de la République. Donc, c'est pas seulement parce qu'on dit défendre les indépendants. Non, nous défendons la Constitution de la République. Et c'est un devoir qui est même prévu dans la Constitution. Il faut qu'on dissipe tout équivoque. C'est pas un problème d'intérêt catégoriel. C'est d'abord un problème de respect d'une Constitution, comme il vous l'a dit, adoptée à 85% par les Congolais.
Propos recueillis par Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa. Trois ans après les accusations de viol portées par des enfants contre des soldats français en République centrafricaine, la justice française a écarté la perspective d'un procès. Les juges d'instruction ont rendu une ordonnance de non-lieu dans l'enquête. Les parties civiles se disent déçues mais ne comptent pas baisser les bras. Le compte-rendu de Yacouba Ouédraogo.
Les juges français ont rendu un non-lieu dans ce dossier clos sans aucune inculpation, conformément aux réquisitions du parquet de Paris. Dans son réquisitoire, le parquet a souligné que les incohérences et la variation des témoignages ne permettent pas d'établir des faits étayés à l'encontre des militaires. L'ONG Emmanuel Daoud a annoncé qu'elle ferait appel de l'ordonnance pour ne pas donner le sentiment que c'est terminé. Nous avons assisté depuis le début de l'enquête à la chronique d'un non-lieu annoncé, a réagi Rodolphe Constantino, avocat d'une autre association, Partie civile, Enfance et Partage. L'affaire a éclaté en avril 2015 lorsque le quotidien britannique The Guardian a fait état d'une note interne de l'ONU relatant les auditions de 6 garçons de 9 à 13 ans. Ils ont accusé des militaires de les avoir violés en échange d'argent et de nourriture entre décembre 2013 et juin 2014. Certains militaires ont affirmé avoir donné des rations alimentaires, mais ont nié tout abus sexuel.
Oui, Yacouba, j'ajoute que l'association Expat, qui lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants, étudie également la possibilité de faire appel du non-lieu. Au moins un gendarme a été tué hier dans le sud-ouest anglophone du Cameroun, où la situation était extrêmement tendue ce lundi. Selon un responsable sous couvert de l'anonymat, le gendarme a été tué par, dit-il, des sécessionnistes dans le département du Dihan, dans le sud-ouest du pays. Nigeria, dans une nouvelle vidéo diffusée ce lundi par Boko Haram, 14 présumées lycéennes de Chibok, dont l'enlèvement de masse il y a presque 4 ans, avait déclenché l'indignation du monde entier, déclare refuser de rentrer chez elles. C'est la première vidéo de ce genre depuis mai, lorsqu'une jeune femme affirme être une des 219 lycéennes enlevées en avril 2014 dans l'état du Borno, était apparue brandissant une arme et refusant elle aussi de rentrer chez elle. Rien n'indique quand et où ce message a été enregistré, ni si les personnes étaient sous la contrainte. Le principal parti d'opposition en Guinée équatoriale, Citoyens pour l'innovation, a annoncé aujourd'hui qu'un de ses militants, Santiago Ebe Ela, 41 ans, était décédé dans la nuit de samedi à dimanche en prison à la suite de tortures. Le parti au pouvoir au Libéria annonce l'exclusion de la présidente sortante, Hélène Johnson Sirleaf, lui reprochant de ne pas avoir fait campagne pour son vice-président, Joseph Boaké, battu par George Weah au second tour le 26 décembre. Les militants islamistes somaliens Shebab se montrent de plus en plus menaçants à l'égard des civils pour les forcer à leur remettre de jeunes enfants destinés à être endoctrinés. C'est ce que rapporte ce lundi Human Rights Watch. Ils se sont livrés à des représailles contre les communautés refusant de coopérer d'après l'ONG. Plus de 930 personnes ont été arrêtées lors des troubles sociaux en Tunisie, alimentés par le chômage, la corruption et des mesures d'austérité dans le budget 2018. Justement, le pays a marqué hier le 7e anniversaire de la Révolution, une célébration en demi-teinte face aux mêmes maux à l'origine de la chute de la dictature, comme nous le rappelle Ekia Badou.
C'était le 14 janvier 2011. Ben Ali fuit alors vers l'Arabie Saoudite après 23 ans au pouvoir à l'issue d'une révolte populaire déclenchée par l'immolation par le feu en décembre d'un jeune vendeur ambulant à Sidi Bouzid, excédé par la pauvreté et les humiliations policières. Le soulèvement fait 338 morts et plus de 2000 blessés et donne lieu à des centaines d'arrestations. La révolution de Jasmin allait lancer la vague des printemps. Dimanche, il n'y avait pas les scènes de liesse d'il y a 7 ans lorsque la foule applaudissait la chute du président Ben Ali. Après les troubles qui ont éclaté en début de semaine, des centaines de personnes ont défilé dimanche dans le calme dans les provinces et dans la capitale. Les manifestants continuent de réclamer la fin des mesures d'austérité. En Tunisie, quelques 600 000 personnes sont au chômage, dont 30% de diplômés.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La ministre française des Armées, Florence Parly, réunit ce lundi à Paris ses homologues de la force militaire conjointe des pays du G5 Sahel dans l'espoir d'accélérer sa mise en œuvre. Alors que les groupes djihadistes ont promis de faire barrage à cet effort antiterroriste, le G5 Sahel comprend le Mali, le Tchad, le Burkina Faso, le Niger et la Mauritanie. Le président américain Donald Trump a déclaré hier qu'il n'était pas raciste après le tollé provoqué par des propos jugés désobligeants qu'on lui attribue au sujet de Haïti et des pays d'Afrique qui envoient des migrants aux États-Unis. Le locataire de la Maison Blanche avait déjà apporté un démenti vendredi dernier. Le point avec Abdourahman Dia.
Je ne suis pas raciste. Je suis la personne la moins raciste que vous ayez jamais interviewée. Je peux vous le dire. Le président Donald Trump était obligé de répondre à une question d'un journaliste depuis son club de golf de West Palm Beach en Floride où il dînait dimanche avec le chef de la majorité de la Chambre des représentants. Une question à laquelle il a refusé de répondre vendredi. Donald Trump avait déjà affirmé dans un tweet n'avoir jamais dit de mal des Haïtiens après avoir déjà nié l'utilisation de l'expression insultante qu'on lui a prêtée lors d'une réunion sur l'immigration jeudi à la Maison Blanche. Deux sénateurs républicains ayant pris part à cette rencontre sont venus à sa défense, affirmant n'avoir pas entendu de tels propos. Après le Botswana et le Sénégal, l'Afrique du Sud a convoqué ce lundi l'ambassadeur des États-Unis à Pretoria pour s'expliquer, jugeant le démenti vendredi du président Trump pas assez catégorique. Le président de la Commission de l'Union africaine, Mahamat Faki, a aussi convoqué aujourd'hui la représentante de Washington auprès de l'UIA à Addis Abeba pour lui faire part de l'indignation de l'organisation qu'il dirige.
Enfin, en Irak, le premier ministre Haider al-Abadi a appelé aujourd'hui à éliminer les cellules dormantes djihadistes après un double attentat suicide ayant fait 31 morts à Bagdad, le deuxième dans la capitale irakienne, en 3 jours. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Un tour d'horizon de l'actualité économique en Afrique. Il est l'heure de la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Eric Manirakiza.
La société minière britannique Gem Diamonds a extrait au Lesotho un diamant d'une masse exceptionnelle de 910 carats. Il est déjà considéré comme l'un des 5 plus gros jamais découverts sur la planète et pourrait valoir jusqu'à 33 millions d'euros. Cette découverte a fait grimper le titre de Gem Diamonds à la Bourse de Londres par une hausse de 14%. Accord entre le Rwanda et la Tanzanie pour la construction d'une voie ferrée de 400 km reliant Isaka à Kigali. Elle va favoriser les échanges commerciaux avec le Rwanda. Ce tronçon doit également concurrencer un projet similaire entrepris au Kenya qui devra relier le port de Mombasa à l'Ouganda et au Rwanda. Les travaux devraient débuter cette année. L'Égypte est désormais le 3e producteur mondial de fibres de verre aux côtés des États-Unis et de la Chine. La production annuelle a atteint environ 200 000 tonnes et 99% sont orientées à l'exportation. L'usine a également permis d'offrir 2 000 emplois directs.
Sans plus tarder, les sports avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jacques, bonsoir à tous.
Alors, CHAN Maroc 2018, pour commencer, la Libye écrase la Guinée équatoriale dans le premier match du groupe C. Yacouba.
3-0 pour les chevaliers libyens de la Méditerranée. Saléen Al-Attaher a ouvert le score à la 12e minute avant de récidiver 5 minutes plus tard. Al-Araïch Zakaria porte le score à 3-0 à la 87e. La seconde rencontre du jour dans ce groupe C opposera le Nigeria au Rwanda. Coup d'envoi 19h30, temps universel.
Hier, ce fut la journée des surprises avec les chutes d'entrée des éléphants et du Sili National.
Les Ivoiriens battus 1-0 par le petit poussin du groupe B. Néanmoins, le sélectionneur ivoirien Ibrahim Camara conjugue cette défaite au passé et veut se concentrer sur les matchs à venir. C'est ce qu'il a annoncé en conférence de presse. Les Chipolo Polo de la Zambie sont en tête de ce groupe B grâce à leur victoire 3-1 devant les Crânes de l'Ouganda. Désillusion également pour la Guinée, surprise par le Soudan 2-1 dans le groupe A. Le groupe D entre en liste demain avec Burkina Faso Angola à 16h30 et Congo Cameroun à 19h30.
Autre nouvelle dans les tribunaux, cette fois Yacouba, confirmation de la radiation de Joseph Lamte.
La FIFA a confirmé aujourd'hui, Jacques, avoir pris bonne note de la sentence du tribunal arbitral du sport confirmant la suspension à vie de l'arbitre ghanéen. D'après les conclusions du TAS, Lamte est reconnu coupable d'avoir volontairement pris de mauvaises décisions dans le match Afrique du Sud-Sénégal dans le but de permettre qu'un certain nombre de buts soient marqués afin que des parieurs puissent toucher leur gain.
Merci bien Yacouba Bouidargout. On vous retrouve tout à l'heure pour le magazine sportif évidemment sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui continue sur VOA Afrique et nous passons maintenant à notre tranche magazine. Jacques Aristide toujours avec vous depuis Washington. Au Bénin, la semaine s'annonce très dure pour le gouvernement. Après les agents de la santé, de la justice et les six centrales syndicales, le Front d'action des syndicats de l'éducation projette également d'entrer en grève à partir de mardi. Ils protestent tous contre le retrait du droit de grève aux magistrats, aux agents de la santé et aux forces de sécurité. Un reportage de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adandé.
En votant la loi sur le retrait du droit de grève à certains travailleurs, les députés étaient loin d'imaginer que cela pourrait paralyser tous les secteurs d'activité. Même le président de l'Assemblée nationale s'est senti obligé de se justifier afin de lever tout équivoque. Pour Adrien Rombedji, c'était un devoir républicain d'être compatissant envers les populations qui récoltent les plus graves préjudices pendant les mouvements de grève dans les secteurs concernés.
Nous aurions aimé ne pas toucher à ce droit. Nous avons dû le faire. Parce que des abus sont commis dans l'exercice de ce droit. C'est le lieu de le dire, c'est mon devoir.
Les travailleurs du secteur de la justice ont été assez clairs sur la nécessité de retirer cette loi qui, selon eux, est une restriction des libertés. Ceux de la santé pensent que le gouvernement a manqué à sa promesse en se portant complice du vote d'une telle loi.
Il veut nous retirer le droit de grève et nous allons réclamer, reprendre ce droit de grève par la grève. Et nous allons déclencher la grève. Vous êtes en négociation avec les gens. Vous avez promis des choses après la grève. Et nous sommes tués malgré qu'on n'ait pas encore eu tout eu et vous décidez de nous supprimer le droit de grève. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas tenir promesse.
Mardi prochain, les écoles fermeront leurs portes de l'enseignement primaire jusqu'au supérieur. L'heure est grave et le feu qui arrache le toit du voisin peut vous surprendre si vous ne faites rien, a précisé le porte-parole du Front d'action des syndicats de l'éducation.
Nous constatons que les libertés sont en train d'être attaquées et violées. Les travailleurs du secteur de l'éducation veulent aller en grève pour poser les problèmes de carrière, mais sans occulter aussi les problèmes de liberté, parce qu'il faut jouir du droit de grève avant de pouvoir l'exercer, et cela n'arrive pas qu'aux autres.
Dans le rang des populations, les avis sont partagés. Certains trouvent que les travailleurs âgés n'ont pas brandi d'office l'arme de la grève chaque fois qu'ils sont mécontents.
Ça, ce n'est pas bon, on doit radier. Ils sont en train de pénaliser la population. Qu'est-ce qu'ils veulent encore? Qu'est-ce qu'ils veulent faire?
À part la grève, il y a plusieurs autres actions syndicales.
Il y a quelques jours, les centrales syndicales ont tenu un sit-in devant le Parlement pour, disent-ils, aller rappeler aux députés qu'ils doivent voter des lois pour le bien-être du peuple et non pour les intérêts du chef de l'État. Pour le député Gildas Agonkan, c'est bien pour la sauvegarde des intérêts du peuple que cette loi a été votée.
Nous pensons que la grève dans un nombre de domaines de 7 heures dans notre pays a été un peu dans une logique d'abus et avec des conséquences dommageables pour les populations. Et nous avions pensé que pour pallier à tout ça, faille interdire, refuser la grève à un certain nombre de corps.
En attendant que la Cour constitutionnelle ne donne son avis sur cette loi, la lecture que chaque camp fait de l'article réservé au droit de grève des travailleurs dans la Constitution en vient même à semer le doute dans l'esprit des populations. Pour les travailleurs, la paralysie de tous les secteurs d'activité cessera avec le retrait de la loi. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Les forces armées du Mali se préparent à lancer une vaste opération de sécurisation des régions centrales. L'objectif est de traquer tous les groupes terroristes et djihadistes qui sévissent. Cette opération vise également à permettre le retour de l'administration et l'organisation des élections générales cette année. Notre correspondant Kassim Traoré nous en dit davantage.
plus d'un millier de militaires seront déployés dans le centre du pays pour renforcer une ancienne initiative de l'armée malienne. Général de brigade Bemba Moussa Keïta, chef d'état-major général des armées du Mali.
Je puis rassurer nos populations que nous allons amplifier la mutualisation des moyens de l'opération d'armée, ceux du plan de sécurisation intégrée des régions du centre avec ceux des partenaires pour créer un environnement favorisant le développement socio-économique et culturel et permettant la tenue des élections générales de 2018.
Ségou et Mopti sont les deux régions concernées par cette opération. Hassan Kone de NotreNation.com.
De l'insécurité qui résidait dans certaines localités du nord depuis un certain temps s'est déplacé dans le centre du Mali et en train de glisser vers le centre-est du Mali. Donc il est tout à fait normal en prévision des échéances électorales futures que le Mali rassure en ramenant la sécurité sur une grande portion du territoire et de façon très urgente.
Cette opération ne doit pas se limiter aux seules régions du centre. C'est ce que pense Sid El-Meidi Al-Baka de Kida.
La coalition entre les hommes d'Amadou Koufa et Yadé Gari est une réalité. Donc, le problème du centre est le même problème du nord qui s'est juste déplacé. Il nous manque aussi ces entretiens entre les chefs des fractions, les chefs des villages. Il y a une nécessité de jouer la carte de l'information, de la sensibilisation, mais surtout des renseignements.
Le volet sécuritaire est déjà opérationnel avec ses quatre grands axes. Général de brigade Salif Traoré, ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile.
Nous sommes arrivés à la conclusion qu'on ne pouvait pas résoudre ces problèmes-là par la simple force armée. Il fallait que l'administration soit là, et qu'il fallait parler avec la population et qu'il fallait aider la population pour qu'elle puisse rester avec des actions de développement.
Le plan intégré de sécurisation des régions du centre a réalisé des actions dans la région de Mopti. C'est ce que nous explique le général Salif Traoré.
Nous avons déjà deux sites stratégiques dans la région de Mopti qui sont occupés aujourd'hui par les forces de sécurité. Et dans le premier site qui est Kouakou, nous avons déjà l'administration, l'école, la santé. Tout est revenu et la vie reprend là-bas. Nous allons donc mettre les bouchées doubles pour que dans les deux mois à venir, trois mois à venir, nous puissions être présents dans l'essentiel de cette zone-là pour que la population civile puisse retrouver le calme.
Les populations maliennes attendent de voir le début des opérations militaires s'ils vont retrouver leur quiétude d'antan. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako au Mali sur 102.0 FM.
Au Togo, un laboratoire d'expérimentation mobile va désormais sillonner le pays pour permettre aux élèves de ces écoles d'allier la théorie à la pratique. Il s'agit du projet dénommé MOLAB, piloté par l'ambassade des États-Unis. Un reportage de notre correspondante Kay Lorson.
Rares sont les écoles togolaises qui disposent en leur sein des laboratoires d'expérimentation scientifique. Des collèges et lycées se contentent des cours théoriques en physique, en chimie ou encore en sciences de la vie et de la terre. Face à ce manquement qui inhibe le goût de la chose scientifique chez ses élèves, le projet MOLAB pour Mobile Laboratory en anglais est initié pour y pallier. Pour sa première sortie, ce laboratoire ambulant était dans les locaux du lycée d'Adamawa dans la banlieue est de Lomé, où des élèves ont fait pour la première fois des expérimentations. Catherine Amélé Agbaglo, élève en classe de terminale scientifique.
On n'a pas de laboratoire dans notre établissement. C'est la première fois que je procède à une telle expérience. Le fait que nous faisons des cours et des pratiques, des théories là, comme on n'a pas de laboratoire dans notre établissement, ça pose beaucoup de problèmes. Ce qui fait qu'on ne comprend pas du tout ce que le professeur nous fait en classe.
Le projet MOLAB, une conception de l'ambassade des États-Unis au Togo, entend relever le niveau de l'éducation togolaise. Mike Fryer, chef de la section affaires publiques de cette ambassade.
Beaucoup d'élèves au Togo manquent l'accès à une éducation de qualité. Donc l'idée de MOLAB est de fournir une éducation de qualité à chaque élève, n'importe où ils vivent ou combien d'argent leurs parents gagnent. Chaque élève mérite une éducation de qualité.
Ce projet a été réalisé grâce à l'appui de Contour Global, une société de production d'électricité au Togo. Il s'agit d'un investissement dans les ressources humaines, explique Yafo Pangam, directeur des programmes d'investissement social et environnemental à Contour Global.
Nous estimons que notre activité, qui est une activité industrielle, ne peut être durable que si nous avons formé des ressources humaines. Si nous n'avons pas des gens bien formés dans le futur, notre business ne pourra pas tenir aussi longtemps dans notre pays.
Un laboratoire mobile est une belle initiative. Cependant, Eho Afi Ablodevi, proviseur du lycée d'Adamawa, plaide pour l'installation d'un laboratoire d'expérimentation dans son établissement.
Les élèves ont fait les expériences, mais plus tard, la voiture va partir. Donc, nous voulons un laboratoire fixe dans l'établissement. Comme ça, quand les cours vont finir, les enfants pourront aller dans ce laboratoire pour faire les expériences.
Dans ce bus laboratoire, des initiations à l'informatique sont également proposées aux élèves. Sabine Messant découvre pour la première fois l'imprimante 3D.
Aujourd'hui, on a eu la visite de certains messieurs qui sont venus avec le bus. On a vu l'imprimante 3D. On nous a expliqué comment l'utiliser. Si un objet se cache, tu veux le réimprimer, comment faire. Et le monsieur nous a dit, si on voulait devenir comme lui, il fallait juste travailler. Moi, j'ai adoré. C'était très bien. On aimerait que ça revienne encore une fois dans notre établissement.
La mission du Molab finit au lycée d'Adamawa. Le laboratoire mobile quitte cet établissement scolaire pour une autre école où attendent des élèves impatients de faire une première expérimentation de laboratoire. Kainoson, Lomé, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite. La journée Martin Luther King est célébrée ce lundi aux États-Unis pour rendre hommage aux militants des droits civiques assassinés en 1968. Cette célébration se tient dans un contexte de polémique ayant trait à des propos désobligeants qu'aurait tenus le président Donald Trump sur les pays africains et Haïti. Abdourahman Diya a demandé au professeur Souleyman Bachir Diagne de l'Université Columbia à New York si le Martin Luther King Day avait toujours sa raison d'être.
Je ne vois pas très bien d'ailleurs le sens du raisonnement qui est ainsi produit par les conservateurs, parce que célébrer l'action historique d'un personnage historique comme Martin Luther King, c'est quelque chose qui s'impose à nous, quelles que soient les circonstances. Même si son combat était aujourd'hui couronné de succès, il faudrait quand même le saluer, ce combat, et le célébrer.
Cette journée Martin Luther King est célébrée dans un contexte de polémique sur des propos insultant qu'aurait tenu le président Donald Trump à l'endroit des pays africains et de Haïti. Qu'est-ce que cela veut dire vraiment pour les relations interraciales aux États-Unis aujourd'hui?
Alors justement, je noterai d'abord que ces circonstances que vous évoquez, le contexte que vous évoquez, manifeste bien que le raisonnement des conservateurs disant qu'il n'était plus nécessaire de célébrer le combat de Martin Luther King n'a pas lieu d'être. Ce raisonnement est totalement invalidé, précisément par les circonstances actuelles qui montrent que la fameuse phrase de W.E.B. Du Bois disant que le problème du XXe siècle était le problème de la race. Au fond, cette phrase est vraie et sa signification est en train de déborder sur le 21e siècle.
Beaucoup de leaders d'opinion de la communauté noire ici aux États-Unis ont vigoureusement réagi à ces propos qu'on prête au président. Est-ce que cela veut dire que la communauté afro-américaine s'identifie à ses origines africaines ou c'est plutôt son leadership seulement et pas le reste de la communauté afro-américaine?
Écoutez, c'est une question importante et difficile que vous posez là, parce que c'est vrai, j'aurais tendance à penser que les leaders de la communauté africaine-américaine sont évidemment tout à fait conscients du lien organique profond qui lie les communautés de part et d'autre de l'Atlantique, nous dirons. Mais je ne suis pas sûr que cette notion de solidarité aille véritablement plus profondément dans la communauté africaine-américaine, au-delà de son leadership. Sur ce plan-là, évidemment, il y a encore à travailler. Les communautés, on va dire, immigrées ou issues de l'immigration africaine qui vivent aujourd'hui dans beaucoup de villes américaines n'ont pas toujours le sentiment d'être de plein pied, dirons-nous, avec la communauté africaine-américaine.
En ligne de New York, c'était le philosophe et analyste politique Souleymane Bachir Diagne. Et voilà, c'est ici que nous allons clore ce numéro du Monde Aujourd'hui. Sins Loumami a dirigé la mise en onde. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous. C'était Jacques Aristide dans la capitale américaine. Je vous souhaite une excellente soirée sur VOA Afrique et sur nos chaînes partenaires.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wenpanga. Wayegouya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.